Oblique. Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.
Il existe une société secrète qui envahit peu à peu nos villes.
Ni des hommes, ni des animaux, mais quelque chose qui est entre les deux.
Bonjour à toutes et à tous, voici donc la quatrième d'Oblique. À ce rythme, nous allons peut-être rester ensemble quelques semaines, hein, à moins que nous décédions tous du Covid, ce que je n'espère pas bien sûr. Et une émission de cinéma qui va être placée alors sous le cinéma un peu post-68 art, on y reviendra, de l'animation chinoise, d'un film japonais et Wenders. N'est-ce pas, Olivier?
Oui,
bonjour, bonjour Olivier, bonjour Justine, bonjour Yann.
Bonjour.
Toi, c'est avec un film Netflix, je crois, que tu nous reviens.
Ouais, carrément. On ose tout à Oblique.
Et toi, Yann?
Ce sera Paris, Texas.
Et tout de suite, bonjour Justine, oui. Donc nous te retrouvons pour la revue de presse.
C'est ça. Alors oui, pas mal de choses sympathiques au programme cette semaine. Dimanche 13 février, si vous n'avez pas envie de faire la grasse mat, à 10h, le collectif Le Beau Temps s'invite au cinéma Utopia pour nous proposer une matinée pleine d'activités diverses et variées. Au programme, une présentation du collectif Le Beau Temps, la projection du film Woman at War de Benedict Erlingson et du film Poupelle de Yusuke Hirota, mais aussi un brunch, une rencontre et des ateliers pour les enfants. Le lundi 14 février, c'est certes le jour de la Saint-Valentin, mais c'est surtout le début du festival Polva au cinéma. Durant 4 jours, le festival nous propose pas moins d'une trentaine d'événements exceptionnels tels que des avant-premières, des ciné-concerts, des expositions, mais aussi la présence de nombreux invités et bien d'autres choses. Pour le programme détaillé, rendez-vous sur la page Facebook du festival. D'ailleurs, mardi 15 février, toujours dans le cadre du festival, j'ai été intriguée par un événement un peu singulier. Une séance olfactive du film Peau d'âne de Jacques Demy, original. Et donc, vous serez amené à sentir durant la projection des parfums uniques autour d'éléments du film. Pour cette expérience insolite, rendez-vous à 10h en salle Jean Moulin à l'université Paul Valéry. Toujours mardi 15 février, mais à 20h, le Centre culturel Lacordaire nous propose une soirée autour des nomades de Mongolie en présence de la réalisatrice et écrivaine Aimée Boucher, qui nous présentera son documentaire « Till Tomorrow », puis son livre « Nomades sur les terres de Mongolie », récemment paru aux éditions Elitis. Mercredi 16 février à 20h30, au Trio Leto, le festival Paul va au cinéma nous propose un ciné-concert autour du film Dark Star, le premier film de John Carpenter. Une véritable curiosité SF, longtemps passée inaperçue, et c'est le groupe Ropoporose qui interprétera la bande musicale de ce huis clos venu d'ailleurs. Ouais, pas mal. Jeudi 17 février à 20h, rendez-vous au ciné-club Jean Vigo pour la projection du film Le Portrait de Dorian Gray, réalisé par Albert Lewin, qui a tiré son inspiration pour ce film du roman éponyme d'Oscar Wilde. Et enfin, vendredi 18 février, le festival Paul va au cinéma vous invite au cinéma Utopia à 18h30 pour sa séance de clôture. Et cette édition se finira en beauté avec l'avant-première du documentaire Funambule de Ilan Klipper, proposé par l'Acide. Petit bonus, la séance sera suivie d'un échange avec le compositeur de la musique du film, Frank Williams. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Justine. Je suis très attirée par l'histoire de Peau d'âne et des senteurs.
Ah oui, la séance olfactive, voilà. Je me suis dit, il fallait absolument que j'en parle parce que...
Et bah, tout de suite, on va aller du côté de la Chine, en parlant de Mélenchon, avec une super production qui s'appelle White Snake. Les animés chinois hein, se font rares sur nos terres et il serait dommage de passer à côté de Whitesnake, qui vaut mieux que son apparence lissée de croûte numérique. Alors du numérique, le film en déborde, mais le résultat est esthétiquement réussi, avec une attention toute particulière au décor impressionnant qui nous immerge dans un monde de mystères et de légendes. L'histoire reprend l'un des mythes les plus célèbres de la culture asiatique, déjà transposé de nombreuses fois au cinéma, alors notamment par Chu Hark en 93 avec Green Snake. Bon, le serpent était devenu vert entre-temps. Hein. Métamorphosé en femme, hein, Blanca, un démon du serpent blanc, devient amnésique avec l'aide de Xuan, par ailleurs chasseur de serpents. Elle va tenter de retrouver la mémoire, mais l'aventure se complique quand Blanca et Xuan tombent peu à peu amoureux l'un de l'autre. Mais de dangereux esprits et de puissantes créatures vont se dresser sur leur chemin.
Vous êtes réveillé ?
Où sommes-nous ? Au village des chasseurs de serpents. C'est le jeune Xuan qui vous a sauvé.
Si vous voulez, je vous emmène là où je vous ai découverte. On trouvera peut-être des indices.
Tue le grand Daoshi ! T'es un chasseur de serpents ! Blanca !
J'aimerais savoir si une inconnue a trouvé refuge dans votre village.
On t'a confié cette épingle pour que tu exécutes un ordre. Assassiner le grand Daoshi. Tu ne te rappelles plus, ma sœur.
Préparez-vous à être anéanti.
Blanca, quoi qu'il arrive, je serai là pour toi.
Notre vraie nature se révélera tôt ou tard. Te trouvera-t-il toujours aussi charmante ? Un jour, peut-être. Tu regretteras d'être venu me voir.
On n'échappe pas à sa nature. Tu es un humain, je suis un démon.
Les deux réalisateurs, hein, Zhao Ji, dont il s'agit d'ailleurs de leur premier long métrage, hein, parviennent à allier habilement en fait, tradition et modernité, un sens du romanesque et séquences d'action efficaces. L'animation, parfois phagocytée par son côté jeu vidéo, parvient à faire vivre ses personnages loin des modèles disneyens. Alors présenté à l'Étrange Festival et au Festival d'Annecy en 2019, oui le film a déjà plus de deux ans, hein, le film sort enfin sur les écrans. Cette plongée au cœur de la mythologie chinoise, un très grand public cherche avant tout à recréer l'illusion de grands spectacles universels, même si certaines références peuvent nous échapper. Certes, le résultat n'est pas parfait, hein, l'histoire d'amour elle frise parfois un peu la niaiserie, le scénario bancal souffre de quelques coupes déséquilibrant l'ensemble, et puis peut-être le plus gênant, ça tient au manque d'incarnation des figures antagonistes, hein, des méchants un peu très très caricaturaux. Mais ces défauts n'empêchent pas le plaisir éprouvé devant ce film d'animation bénéficiant de splendides dessins et d'une mise en scène ample, privilégiant souvent l'élégance visuelle au détriment du rythme. Voilà, il s'agit d'une super production, très premier degré, assumant pleinement sa dimension romanesque. Hein. Mais le plus surprenant demeure sans doute la sensualité qui émane du personnage de Blanca, fascinant du début à la fin. Dommage que le Roméo de service soit moins intéressant. Hein. Imparfait, donc traversé d'élan poétique, Whitesnake est un joli conte animé qui devrait satisfaire tout le monde, petits et grands. Hein. Le film a d'ailleurs fait un carton en Chine et une suite a déjà été tournée. Mais le truc curieux, c'est qu'elle n'est pas prévue pour le grand écran, mais pour une des plateformes, je ne sais plus laquelle. Whitesnake est sorti donc ce jour, le 9 février, et il est visible donc au cinéma Multiplex à Montpellier.
No one knew better than McCain that they'd get him all the same.
Alors voilà, là, avant l'interview, donc je vais vous parler d'un cinéaste un peu très 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 confidentiel mais intéressant, hein, qui s'appelle Jean-Denis Bonan, hein, qui sera présent à la Cinémathèque de Toulouse du 9 au 12 février 2022, alors pour présenter, exposer et diffuser un certain nombre de ses créations diverses. Alors artiste aux multiples talents, hein, il est écrivain, photographe, peintre, il a été enseignant. Jean-Denis Bonan est un cinéaste méconnu, hein, qui a débuté d'ailleurs avec un autre cinéaste un peu confidentiel, Jean Rollin. Alors méconnu car dès son premier court-métrage, hein, Tristesse des anthropophages, la censure s'est montrée particulièrement violente, interdisant le film pendant près de 50 ans. Son premier long-métrage, La femme bourreau, a subi le même sort et est sorti de l'ombre en 2015. Pourtant, il s'agit vraiment d'un film très très étonnant, hein, tourné pendant les événements de 1968. Hein, un vrai brûlot politique, on pourrait dire, entre Godard, Debord et Georges Romero. Alors 50 ans plus tard, il réalise son deuxième long métrage, Bleu Palebourg. Hein. La programmation, elle est... Alors, il sera absent de la rétrospective, hein, ce film. La programmation est entièrement organisée par le cinéaste lui-même avec une série de courts-métrages. Il présentera également une exposition de ses œuvres en tant que plasticien et une poétesse, hein, Dominique Bergougnou, lira quelques textes de son dernier recueil de poésie, Meute. Voilà, Olivier Rossignol et Audrey Jamard de Culture au Point, un web magazine culturel, a rencontré ce personnage étonnant, chaleureux et vraiment passionnant à écouter.
La rétro qui va avoir lieu à Toulouse à très bientôt, en février, elle est prévue depuis longtemps en réalité, mais à cause d'un truc qui s'appelle la Covid, ça a été retardé sans cesse. Entre-temps, il y a eu une rétrospective à la Cinémathèque tunisienne, et ce n'est pas tout à fait le même programme que je propose cette fois-ci à Toulouse. Alors oui, qu'est-ce que ça me fait? C'est vrai que j'ai quand même été et plus que marginalisé, quand même, incomplètement. Mais quand... Je peux me référer à ce qui s'est passé en Tunisie, parce que ça s'est passé. J'étais invité avec ma fille et ma petite-fille. Donc il y avait trois générations qui revenaient à un lieu qui est en plus mon lieu de naissance, puisque je suis né en Tunisie. Et là, il y avait ma photo en grande en Tunis et tout. Et j'ai vu ma fille qui pleurait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, tu ne te rends pas compte? Et non, je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte parce que c'est vrai que le temps a tellement passé... que je ne sais pas comment dire. C'est presque d'un autre qui s'agit que moi. C'est comme si on parlait de quelqu'un d'autre en disant, oui, ben c'est bien Jean-Denis Bonan, qui c'est celui-là, il a une rétrospective à Toulouse, ben je suis très content. Voilà. Mais c'est pas, je peux pas le prendre comme un, j'arrive pas à le prendre comme un truc, vraiment comme un événement qui m'appartient à moi tout seul. Et d'ailleurs, c'est ça qui me plaît, c'est que quand il y a un événement pareil, j'essaye que mes complices, mes camarades, mes copains, mes copines, soient près de moi. Et c'est le cas. À Toulouse, il y aura Francis Lecomte qui va être avec moi, mais il y aura aussi Jean-Pierre Bastide. C'est grâce à Jean-Pierre Bastide que quand même ces films ont ressuscité, puisqu'ils étaient enfermés dans des placards. Il y aura les comédiens et comédiennes, il y aura les chanteurs comme Daniel Laloux qui participe à mes films depuis 1966. Donc oui, ça, c'est plutôt ça qui fait que c'est de la fête plutôt que je me réjouis. Le reste, c'est un peu théorique, mais j'en suis content, oui, théoriquement très content. Alors Franck Lubé, c'est lui qui m'a proposé, c'est lui qui a eu l'idée de cette rétrospective. C'est pas facile de faire un programme, parce que comme ça s'étale sur de nombreuses années, puisque mon premier film, j'avais 19 ans, aujourd'hui j'en ai 79, on compte pas. Hein. Mais ça, donc j'ai forcément fait des choses très différentes les unes des autres. Et en plus, c'est dans mon goût de changer, c'est dans mon goût. J'aime ça, changer de style, changer de genre, changer d'approche, ça me plaît. Donc c'est très compliqué de faire un programme cohérent, en réalité très compliqué. Alors, c'est grâce justement aux diverses expériences que nous avons eues de programmation que j'ai pu me rendre compte que certes, quelques films tuaient les autres quand on les mettait. Alors, comment j'ai conçu? J'ai conçu ça par thème. La première soirée, par exemple, est consacrée à la folie. Alors, la folie, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, certainement parce que je suis fou, mais enfin, ça, je ne le savais pas. Mais ça m'intéresse parce qu'effectivement, à partir de cette exagération qu'est la folie, qui ne fait qu'exagérer tout ce qu'on a en nous, les uns et les autres, ben on arrive à mieux comprendre ce qui se passe, ce qu'on est, ce qu'on ressent, ce qu'on peut aimer ou pas aimer. Donc il y aura deux films pour commencer, l'un qui s'appelle « Neuf jours ailleurs », qui est un documentaire que j'avais fait pour Antenne 2, dans un hôpital psychiatrique, dans un pavillon ouvert, mais avec des personnes très gravement atteintes, des schizophrènes en particulier. Et ça, c'est un film intéressant, parce qu'il n'est passé qu'une fois à la télévision. On ne peut pas dire qu'il est passé inaperçu, mais enfin, quand un film passe une fois, le propre de la télévision, c'est ça, c'est que c'est un robinet, on l'ouvre, on est très content quand l'eau coule, puis quand c'est fermé, ben c'est fini, il faut réouvrir le robinet pour autre chose. Et donc c'était fini, donc je suis très content, c'est grâce à Yves-Marie Mahé, que j'ai redécouvert ce film parce qu'il a été le voir à l'INA et il m'a dit mais c'est vraiment très bien. Et effectivement, c'est un film intéressant et qui parle de choses qui m'intéressent. Donc c'est un documentaire un peu austère, celui-ci. Et je le marie en quelque sorte avec un autre film que j'ai fait en 1967 à la clinique psychiatrique Laborde. Et à la clinique psychiatrique Laborde, qui est une clinique très particulière, on n'appelle pas les gens des fous, mais ni des malades mentaux, on les appelle des pensionnaires, et où il est très difficile, par exemple, de savoir qui est fou et qui n'est pas fou, c'est très bien, c'est comme dans la vie, quoi. Et bien là, on a fait une expérience très particulière, c'est que le scénario a été écrit, si on peut appeler ça écrit, allez, on va dire inventé, par les pensionnaires, justement. Et le tournage s'est fait un peu dans une sorte d'improvisation.
Et oui, donc c'était Jean-Denis Bonnand. Je rappelle que l'événement a lieu à Toulouse, à la Cinémathèque, du 9 au 12 février.
Donc oui, il y a deux semaines, j'étais venu parler ici d'un cinéaste japonais qui s'appelait Toshiaki Toyoda et qui est quasiment invisible chez nous. Alors cette fois-ci, parce que j'ai pas envie qu'on passe pour des gros snobs non plus à Oblique, je me suis dit que j'allais parler d'un film qui vient de sortir sur Netflix. Ce film, il s'appelle Ride or Die et il est réalisé par Ryuichi Hiroki. Bon, j'avoue, cette chronique, c'est aussi un peu une façon de reprendre des nouvelles de certains cinéastes japonais contemporains qu'on a un peu perdu de vue au fil des années et des hasards de la distribution internationale. Alors, parce que Hiroki, c'est un réalisateur qui a débuté dans le cinéma pink, hein, le cinéma érotique, à la fin des années 80, il me semble, ou 90, et qui s'est fait assez remarquer dès le départ par ses thèmes assez sombres, des histoires de paria de la société japonaise, avec une attention sur les personnages féminins qui prenaient beaucoup d'importance, des films qui sont souvent plus désespérés que franchement érotiques. Alors, il a évolué par la suite vers un cinéma plus mainstream, tournant des drames souvent naturalistes, mais qui abordent encore la plupart du temps la sexualité, mettent en scène toujours aussi des personnages féminins, souvent au cœur de l'intrigue, qui est personnages marquants et complexes. En 2003, par exemple, il a remporté le Grand Prix du Festival Yokohama pour un film qui s'appelle Vibrator, qui était adapté d'un roman écrit par une écrivaine dont j'ai oublié le nom et qui était avec Shinobu Terajima dans le premier rôle. C'est l'actrice qu'on voit aussi dans Le Soldat Dieu de Wakamatsu. Donc ce film lui a valu une certaine reconnaissance. C'était un road movie un peu sur des thèmes érotiques, sur la rencontre de deux paumés, un chauffeur routier et une écrivaine sans le sou, déboussolée, qu'il prend en stop. Et qui partent en vadrouille comme ça pour essayer de trouver un sens à leur vie. Ça a été suivi par un autre film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait It's Only Talk, et qui était en 2005, qui parlait aussi de thèmes comme la solitude urbaine et la dépression, un peu dans une sorte de film choral avec plusieurs personnages qui se croisent, qui avait aussi tourné dans quelques festivals. Donc c'était deux films pas mal du tout. Après, dans les années 2010, je n'ai pas vraiment suivi ce qu'il avait fait. Il semble qu'il a travaillé sur des films plus grand public, notamment en faisant des adaptations de shoujo manga, les mangas pour jeunes filles. Et maintenant, on le retrouve donc sur Netflix. C'est là que sort son nouveau film, Ride or Die, qui s'appelle Kanojo en japonais, et qui est aussi une adaptation de manga, un manga écrit par une femme encore, dont le nom est Ching Nakamura. Alors cette histoire, c'est une sorte d'histoire d'amour lesbienne sur deux personnages, Lei et Nanae. C'est deux jeunes femmes, des anciennes amies de lycée, qui se retrouvent un beau jour dans des circonstances qu'on ne comprend pas tout à fait sur le départ. Au départ, Lei, c'est une riche héritière qui est aussi chirurgienne et qui vit en couple avec une femme. Nanae, c'est une femme au foyer, donc elle commence à se retrouver à parler. On voit que Nanae est mariée à un homme violent qui la bat. Non, je crois qu'elle n'est pas femme au foyer, je dis une bêtise, c'est pas grave. Bon, bref, en tout cas. Elle est mariée à un homme violent qui la bat et elle se retrouve cette amitié entre elles et elles font une sorte de pacte. Et la première, Lei, assassine le mari violent de l'autre. Et voilà, le film commence un peu comme ça, avec ces deux femmes qui partent en cavale à la Thelma et Louise au volant d'une décapotable rouge vif. Alors bon, le Japon n'étant pas les États-Unis, faut pas s'attendre à des courses-poursuites dans des grands espaces. Leur cavale est un peu fichue d'avance sur les routes qui partent de Tokyo. C'est un film que je n'ai pas trouvé parfait. Il y a quelques longueurs, il dure quand même 2h30. Il y a des écarts par rapport à l'intrigue principale, par exemple, de temps en temps, qui sont un peu trop développés ou pas assez pour que ça devienne vraiment intéressant. Il y a des habillages sonores qui sont parfois, qui font un petit peu ouais, dans les codes du drama japonais un peu mielleux, et des choses comme ça. On entend quand même le morceau Loveful des Cardigans, ça fait quand même plaisir. Donc c'est peut-être pas le chef de Hiroki, mais ça reste quand même une proposition assez osée et intéressante, parce que, notamment par la vitalité des actrices, que Hiroki filme à son habitude, au plus près, en gros plan, s'attachant à capter leurs émotions. En alternance avec cet usage du gros plan et cette attention aux actrices, il y a aussi beaucoup de plans larges et amples en alternance qui replacent les personnages dans divers décors du Japon contemporain au gré de leur fuite, en fait. Et rien que pour ça, enfin, la photographie étant très réussie, le film vaut quand même vraiment le coup. Et aussi par ce portrait frontal d'un amour fou, vraiment, et de l'homosexualité féminine qui n'est pas si commune dans les films de l'archipel. Même si, bon, on voit quand même un regard masculin derrière ce film. Mais voilà, donc comme dans Vibrator, c'est encore un film qui parle de la dérive d'un couple d'exclus qui, pour des raisons de classe sociale, et une thématique de classe aussi, et des raisons de sexualité, ne trouvent pas leur place. Et ça vaut quand même le coup d'œil, parce que ce n'est pas si commun. Voilà. Donc c'est sur Netflix, c'est sorti ce mois-ci, je crois, et vous pouvez commencer par là et découvrir... l'œuvre de Ryuichi Hiroki.
Merci Olivier, ça donne envie quand même, vu la pauvreté un peu des nouveautés, je parle Netflix. Et bah maintenant on va changer de continent, on va aller aux États-Unis avec Paris, Texas.
Anything you want to talk about, I'll just listen, all right? I'm a real good listener. Is there something, I don't know, is there something I can do for you?
I just listen. J'écoute, tout simplement. La parole de Jane, interprétée par Nastassia Kinski, est peut-être autant celle du cinéaste Wim Wenders qui nous invite dans son film Paris, Texas, en 1984, à voir bien entendu, mais aussi à tout simplement écouter. Paris, Texas, c'est un de ces films où le son est le partenaire égal de l'image pour transmettre tous les enjeux du récit. La scène clé, l'une des scènes clés, dont on vient d'entendre un extrait, où Travis, le personnage principal interprété par Arydin Stanton, retrouve Jane dans l'incognito d'une cabine de peep show, donne la pleine mesure de la puissance émotionnelle contenue dans une simple voix, dont la fragilité fait vaciller un fond sonore dominé par le souffle artificiel du canal téléphonique reliant les deux personnages. Quant à la dernière question de Jane, « Is there something I can do for you ?» Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi ? L'histoire poignante de ses anciens amants nous laissera dans le doute d'une réponse possible. Cette histoire, c'est Travis qui en est le messager.
And the more he was away from her, the crazier he got. Except now, he got really crazy. He started imagining all kinds of things.
Like what?
He started thinking that she was seeing other men on the sly. He'd come home from work and accuse her of spending the day with somebody else. He'd yell at her and break things in the trailer.
The trailer?
Yes. They lived in a trailer home.
Paris, Texas est un film où il est constamment question de distance et d'éloignement, évoqué notamment par le désert dans lequel Travis divague au début du film, mais où il est aussi question de proximité et d'empathie entre les êtres. Cette dialectique atteint un point culminant dans cette scène du peep show où seule une vitre sépare physiquement Jane et Travis, mais qui laisse pourtant le sentiment si amer et mélancolique que tout un monde, infranchissable, façonné par les années, par le passé, ne leur permet pas de se rejoindre. Scène double en fait, puisque Travis aura du mal à sortir de son mutisme et à dominer son émotion lors de la première visite.
C'est seulement lors de la seconde visite, dans la même cabine de Peepshow, lui regardant Jane, qui, elle, ne le voit pas, que sa voix invite alors le spectateur-auditeur, la spectatrice-auditrice, à écouter le récit, celui d'un passé, celui d'une histoire qui peut alors commencer à accueillir la musique.
She told him that she dreamed about escaping. That was all she dreamed about, escape. She saw herself at night running naked down a highway, running across fields, running down riverbeds, always running. And always just when she was about to get away, he'd be there. He would stop her somehow. He would just appear and stop her. And when she told him these dreams, he believed them. He knew she had to be stopped, or she'd leave him forever.
L'opposition distance-proximité est idéalement exprimée par le dispositif sonore choisi par Wim Wenders. Les voix des personnages passent par le filtre d'un combiné téléphonique. Elles portent des paroles toutes vibrantes d'intimité, celles d'une histoire d'amour. Mais l'environnement sonore, les grésillements, le souffle et la friture très perceptibles dans cette scène, projettent ces mots, pourtant prononcés depuis moins de 2 mètres, vers un monde lointain. Et inscrit cette intimité dans un ailleurs, un passé révolu. Si loin, si proche, pour reprendre le titre d'un film ultérieur du cinéaste allemand.
I didn't have what I knew he needed. I didn't want to use him to fill all my emptiness.
Well, he needs you now, Jane. And he wants to see you.
He does?
Yes. He's waiting for you.
He's waiting for you. Il t'attend. Comme beaucoup d'autres... Attends, je vais le refaire parce que là, c'était... Donc, c'est après leçon 4. On enregistre la... He's waiting for you. Il t'attend. Comme beaucoup d'autres réalisations de Wim Wenders, Paris, Texas est aussi une méditation sur l'attente. Pour finir, on ne se privera pas du son de la guitare de Ry Cooder, à la fois si ancrée dans la terre et projetée vers le ciel, inoubliable actrice de l'atmosphère unique de Paris, Texas.
Eh bien, l'émission se termine. Nous n'avons pas le temps, comme d'habitude, pour un conseil. Ce n'est pas grave. Hein.
Un petit,
allez, vite fait, 10 secondes. Un petit conseil ciné.
Top départ.
Scream ouais. 5, c'est pas mal, non?
Non, c'est pas terrible. Bon, alors, tant pis. Hein. Ce sera pour la prochaine fois. Donc, je voudrais remercier Anna à la technique, le cinéma Utopia, même si on n'a pas parlé de films qui passaient là-bas.
Si,
dans Revue de Presse, oui. Ben oui, on en a parlé. Bah, le Diagonal, Divergence, Jean-Denis Bonnan, Olivier Rossignol et Audrey Jamard de Culture au Point. Donc Yann, Olivier, Justine et une petite pensée pour Victor qui n'est pas là et donc ben, à la semaine prochaine.
Ah si, j'ai peut-être un petit conseil quand même pour de vrai. Allez revoir John McCabe au jeudi.
Ah oui.
Jeudi 10 au cinéma, au Diagonal.
C'est noté.
Eh bien, bonne semaine.
Merci.
Bonne semaine.
Au revoir. Salut.
Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.